Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait ?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur ?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour, voici une émission avec davantage de femmes réalisatrices de films, certains un peu ratés, d'autres franchement réussis, car oui, sur les 5 films que nous vous proposons aujourd'hui, eh bien 3 ont été réalisés par des femmes. Et vous, messieurs, vous avez chacun eh bien, un film proposé par une femme.
Oui, The Nightingale, Rape and Revenge de Jennifer Kent, la réalisatrice de Mr. Babadook.
Et ce film Rape and Revenge nous donnera l'occasion de jouer un blind test, évidemment, Rape and Revenge, 5 extraits dont il faudra découvrir le titre. Et toi, Guillaume, c'est direction Nouvelle-Zélande, le ciel.
C'est ça, alors il n'y a pas de rape, quoique, mais en tout cas, il y a beaucoup de revenge, surtout à la fin, c'est Shadow in the Cloud de Rosanne Liang.
Quant à moi, eh bien, je vous parlerai du dernier long-métrage de Steven Soderbergh, La Grande Traversée, mais nous débutons cette émission avec une super-héroïne, c'est Wonder Woman, film 13 attendu cette année 2021 qui n'aura jamais vu eh bien, les salles de cinéma. Il est disponible en DVD Blu-ray depuis le 7 avril dernier. Wonder Woman 84, c'est Marine qui nous en parle.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi ça, une blague ou quoi ?
Je vais sauver des gens. Mais toi, tu sauves le monde.
Diana, alias Wonder Woman, l'Amazone également super-héroïne, est désormais, dans ce deuxième volet de ses aventures, cloîtrée dans les années 80. Si cela lui permet d'arborer des tenues assez stylées, c'est également une période de solitude pour la guerrière, puisqu'après avoir résolu une guerre mondiale, hein, quand même, dans le premier film, Diana a perdu Steve Trevor, son grand amour. C'est donc une Wonder Woman seule et mélancolique que l'on retrouve, car bien qu'elle ait les traits de la comédienne Gal Gadot, Diana n'a toujours pas retrouvé de nouveau fiancé. Dans ce nouvel opus, toujours signé Patty Jenkins et précédé de critiques assez acides, Wonder Woman va devoir faire face aux fantômes de son amant, mais également à deux nouveaux vilains. Une ancienne collègue timorée, transformée en femme félin surpuissante, et un homme d'affaires véreux qui trouve le moyen de contrôler l'humanité en réalisant les souhaits de chacun grâce à une pierre magique.
Imaginez que tous vos désirs soient enfin exaucés.
En échange, je prends ce que je veux.
Le premier film Wonder Woman en 2017 avait amorcé un véritable tournant dans les films de super-héros. Pour la première fois de l'histoire récente du cinéma, un film était entièrement centré sur une femme et ses super-pouvoirs. Aux commandes de ce blockbuster, une réalisatrice et surtout une façon de filmer le corps et la puissance féminine qui différait de celle de ses confrères masculins qui, eux, avaient tendance à sexualiser systématiquement le corps des comédiennes. Si Wonder Woman, dans la version de 2017, est certes très peu vêtue et très belle, c'est avant tout sa puissance qui était mise en avant à travers les choix de plans de caméra. C'est ce que l'on appelle dorénavant, dans l'analyse cinématographique, le « female gaze », le regard féminin à l'opposé du male gaze. Et l'air de rien, c'était une petite révolution. Et grâce entre autres à ce choix de mise en scène, le film était plutôt efficace.
Ma vie n'a pas été celle que vous devez vous imaginer. Nous traversons tous des épreuves.
Vous êtes déjà tombée amoureuse ?
Il y a très très longtemps. Et vous ?
Je ne sais combien de fois.
Si l'on retrouve Patty Jenkins aux commandes de Wonder Woman 1984, la mise en scène s'avère pourtant bien moins réussie dans ce deuxième film. Le parti pris initial de la réalisatrice était audacieux, faire de son Wonder Woman 84 un film des années 80 avec des méchants corrompus par leur travail dans le quartier des affaires, à la fois victime puis bourreau, une working girl timide rêvant d'émancipation jusqu'au basculement et un self-made man prêt à mourir pour réussir. Si ce vilain, interprété par Pedro Pascal, constitue une critique plutôt intéressante du rêve américain et de l'obsession de la réussite, en plus d'être un personnage charismatique, beaucoup trop d'incohérences viennent malheureusement mettre notre patience à mal dans cette intrigue un peu foutraque. Et les comédiens qui ne sont pourtant pas mauvais, Christian Witt, dans un rôle à contre-emploi, donne son maximum pour interpréter Cheetah, mais ils doivent malheureusement composer avec des dialogues à la fois tordus et simplés. Mention spéciale au monologue final de Wonder Woman sur l'humanité et l'amour qu'aucun comédien ne parviendrait à rendre crédible ou un tant soit peu émouvant. Ajoutez à cela une imagerie vintage pas spécialement réussie, tout de numérique vêtu et des effets spéciaux spectaculairement mal faits et ringards, et vous obtiendrez un film très très long aux scènes d'action assez mal ficelées qui tour à tour ennuie, agace et déçoit.
Le monde a besoin de toi. Tu sais ce qu'il te reste à faire.
Une traversée sur le Queen Mary 2, c'est La Grande Traversée, film de Steven Soderbergh qui n'aura pas vu les salles de cinéma mais qui est disponible donc en exclusivité sur Canal+ Premier.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Alors on se souvient que Steven Soderbergh avait annoncé au début des années 2010 qu'on n'y le reprendrait plus à faire du cinéma et puis finalement, eh bien, après quelques mois seulement, le réalisateur américain, un des plus jeunes à avoir obtenu la Palme d'Or canoise, c'était avec Sexe, mensonges et vidéos en 89, et eh bien le réalisateur s'est remis derrière la caméra pour proposer un ou deux films par an. Alors des films de bien moins grande envergure que les Ocean Eleven qui ont fait une partie de sa renommée, et c'est le parti pris de ce réalisateur capable de verser dans les films grand public qui en donne à tout le monde, mais aussi de proposer des films plus personnels comme son inclassable Schizopolis, l'expérimental The Girlfriend Experience ou encore le déroutant Bubble. Quand Soderbergh ne verse pas dans le cinéma indépendant américain et qu'il s'attaque au divertissement, il fait en sorte de se faire oublier en étant un filmeur consciencieux. Son Contagion qui a ressurgi l'an dernier est d'ailleurs un bon exemple. Alors avec La Grande Traversée qui ne sortira donc pas sur les écrans et qui atterrit directement sur Canal+ Première, Soderbergh ne cherche pas l'approbation de tous les publics et se contentera des spectateurs qui veulent bien le suivre sur le Queen Mary 2. Car La Grande Traversée en question s'effectue sur cet immense paquebot. Le titre français nous renseigne sur le lieu de l'intrigue, mais le titre original, Let Them All Talk, soit Laissons-les parler, nous en dit un peu plus. Le film est en effet bavard et un peu longuet. Alors, écrivaine américaine à succès et lauréate du prix Pulitzer, Alice Hughes, interprétée par Meryl Streep, en panne d'inspiration, se laisse convaincre d'aller chercher un prix prestigieux au Royaume-Uni. Elle y va à bord du Queen Mary 2, alors non pas par coquetterie, mais par peur de l'avion. Elle décide d'inviter avec elle deux vieilles amies d'université et son jeune neveu. Il faut aussi compter sur son agent qui embarque sans la prévenir pour la surveiller. Alors on embarque donc sur ce navire quand on assiste à un huis clos durant lequel il y aura quelques surprises et quelques rebondissements, notamment un étrange personnage qu'on voit à différents moments du film et qui ne prononce que quelques mots. Mais c'est évidemment le personnage de l'écrivaine qui est central, une Meryl Streep qui l'interprète tout en nuances, une femme vaguement hautaine, narcissique, pas vraiment sympathique. Peut-être l'image qu'on se ferait d'une écrivaine new-yorkaise. D'ailleurs, une de ses amies, l'impeccable Candice Bergen, lui reproche d'avoir gâché sa vie, obligée qu'elle est maintenant de la gagner sa vie en vendant de la lingerie et bien occupée durant cette traversée à trouver un homme fortuné. Le reste du trio, c'est Suzanne, interprétée par Diane West, qui intervient comme conciliatrice. Alors le film va avancer au gré des échanges entre tous ces personnages, au rythme d'une croisière qui se fait lente. Petite audace de Soderbergh, il fait intervenir un personnage masculin, la personne d'un auteur de polar à succès. Alors un auteur que l'écrivaine avec son Pulitzer va regarder de haut, l'occasion pour Soderbergh d'opposer le succès populaire au succès d'estime, une vision qu'il pourrait adresser finalement à tout son cinéma et qui trouve ici une illustration dans ce film tourné en une semaine avec des dialogues improvisés. L'interprétation solide vient relever l'intérêt que l'on peut trouver à regarder La Grande Traversée, qui n'est pas alors un grand film de Soderbergh, mais une douceur dramatique sur les flots qui confronte alors moins d'une dizaine de personnages qui parlent de la littérature, de la création, de ce qui la motive, de ce qui la nourrit, sans jamais trancher entre ce qui fait spectacle et ce qui fait sens. Le film laisse une trace comme le sillon d'un paquebot bien après son passage. Alors on peut se demander ce qu'on a vu, mais en se le demandant, eh bien, on ouvre de nombreux tiroirs. C'est quand même l'un des petits avantages de ce film. Donc dernier long métrage de Steven Soderbergh, La Grande Traversée, avec notamment une étonnante Meryl Streep. Et c'est sur Canal+ Première à partir du 20 avril. Avant de retrouver le blind test de cette émission consacrée au Rape and Revenge, et bien justement, un film de Rape and Revenge, The Nightingales, assistant au massacre de sa famille, et bien une femme va tout faire pour se venger. Et c'est toi, Manu, qui nous en parle.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
Oui, oui, oh, ça va ?
Vous deviez signer mon ordre de libération, monsieur, il y a 3 mois maintenant.
Je décide quand tu pars et quand tu restes.
Alors si l'excellent Mr Babadook a ses défenseurs, hein, dont je fais partie, hein, rien ne laissait présager la réussite absolue de The Nightingale, soit le Rossignol en français. Alors véritable électrochoc qui a suscité une forte polémique lors de sa présentation au Festival de Venise en 2018, réveillant le racisme et le sexisme d'une partie des spectateurs, dont un s'est fendu en fin de projection d'un « honte à toi salope » en s'adressant à la réalisatrice. Alors il faut dire que Jennifer Kent s'impose avec un film dérangeant au contenu politique radical, ce qui n'empêche pas l'intelligence du propos. Hein. C'est sans doute une des raisons pour laquelle cette proposition forte est restée inédite en salle, malgré les critiques favorables et son prix du jury. Alors, le récit a pour cadre l'Australie en 1825, hein, alors sous domination anglaise. Après avoir purgé sa peine, Claire, une jeune prisonnière irlandaise, va bientôt retrouver sa liberté et vivre auprès de son mari et de son bébé. Mais c'est sans compter la présence de l'officier Hawkins, hein, qui n'en a pas fini avec elle, prenant plaisir à l'humilier et à la maltraiter, lui attribuant le surnom de Rossignol. Alors pas simplement parce qu'elle a une voix magnifique, hein, elle chante d'ailleurs souvent, mais aussi pour la réduire à l'état d'un oiseau, à une fragilité lui ôtant aussi son humanité. Un soir, Hawkins, accompagné de soldats, hein, la tabasse et la viole, incapable de se relever, laissée pour morte, elle assiste au massacre de sa famille, ce qui nous vaut une séquence particulièrement éprouvante. À son réveil, dans un état second, alors proche de la folie, elle n'a plus qu'une idée en tête, se venger. Elle se lance à leur poursuite, accompagnée d'un guide aborigène, hein, au travers des terres vierges de Tasmanie. Énoncé ainsi, l'histoire prend des allures donc, de rape and revenge pur et dur, mais la colère réelle de la cinéaste ne l'aveugle jamais au point de s'engouffrer dans un récit simpliste de cinéma d'exploitation lambda. Cette approche proche du cinéma d'auteur risque d'ailleurs de détourner les amateurs du genre qui peuvent être aussi désarçonnés par les partis pris esthétiques et narratifs.
J'ai commandé un récital à notre petit Rossignol.
Laissez partir ma femme.
Elle est ma propriété, alors je fais ce que je veux d'elle.
Je vais vous tuer, vous m'entendez ? Je vais vous tuer, salope !
Alors si l'introduction tendue impose un rythme soutenu comme une fausse piste, hein, la suite se fait beaucoup plus contemplative, retrouvant par instant la grandeur du cinéma australien des années 70, alors rappelant des œuvres aussi bien comme The Walkabout de Nicolas Roeg ou Picnic en King Rock de Peter Weir. Alors très habile, le scénario déjoue nos attentes, à commencer par le discours féministe, alors présent dès le départ, mais loin de tout didactisme. Alors rapidement, ce discours très légitime fusionne avec une vision plus ample et générale, fustigeant le système de domination anglaise et de la violence qui en découle à travers leur politique de colonisation d'une île conduisant à une logique de génocide. Alors Jennifer Kent pose un regard terrible sur les dominants, sur la toute-puissance d'une nation qui incarne le symbole de l'homme blanc occidental possédant le pouvoir. Les dominés donc ne sont pas simplement les femmes, mais aussi hein, les aborigènes et les Irlandais. The Nightingale ne sombre pas dans une morale simpliste, il nous laisse avec nos démons, notre libre arbitre, nulle morale facile en robe, un film âpre, inconfortable, souvent d'une violence inouïe et pourtant traversé par une poésie sauvage évoquant Henri David Thoreau.
Cette fille que vous avez violée, dont vous avez assassiné la famille, cette fille est morte. Et on ne peut pas tuer ce qui est déjà mort.
Si je retrouvais les Blancs, ceux qui ont massacré ma famille, j'agirai comme toi. Je t'aiderai à avoir ces hommes.
Alors, ce voyage au bout des ténèbres est aussi une histoire de passation. Claire, obnubilée par sa quête de justice, méfiante envers son guide, va retrouver son humanité, se lier d'amitié avec ce dernier, aborigène qui a vu, lui, sa famille exterminée aussi sous ses yeux. Alors, plongée dans une nature splendide, elle va aussi progressivement laisser de côté son désir de vengeance, épuisée par toute cette violence inutile. Alors, qui ne veut pas dire hein, que le film se dégage de sa noirceur, bien au contraire. Mais bon, là, j'en dirai pas plus. La beauté du film tient aussi à sa forme, hein, très épurée et incarnée. Le choix du 1.33 n'est pas une coquetterie, mais vraiment une manière de montrer par une verticalité, une nature imposante qui écrase littéralement les personnages, magnifiée par la photographie splendide tout en teinte froide de Radek Ladzouk. Alors plus proche, je dirais, du cinéma de Tarkovsky que de Malik, auquel le film a bizarrement été comparé. Mais bon, il faut toujours des comparaisons. Des fois, c'est un peu curieux. Alors, la rigueur des cadrages alternant plan fixe et caméra flottante souligne aussi le parcours intérieur de l'héroïne, tiraillée entre son obsession d'un rigoriste et son besoin de résilience, seule manière de survivre au milieu du chaos. Alors, avec ce second long métrage, qui sort donc en DVD Blu-ray chez Condor Film, mais aussi en VOD, Jennifer Kent s'impose comme une très grande réalisatrice, digne, je pense, d'une Jane Campion, qui n'est pas australienne, mais néo-zélandaise d'ailleurs. Elle signe peut-être le premier Happy and Revenge mélancolique et profondément humaniste qui ne provoque aucune jouissance chez le spectateur, ce qui est souvent l'effet voulu à la base de ce genre.
Eh bien, oui, c'est vrai que comparer un film au format télévision à du Terrence Malick, qui est vraiment du cinémascope plus, c'est assez étrange.
En même temps, Malick peut se revendiquer de Tarkovsky, qui a souvent fait des films en 1.33 d'ailleurs.
Voilà, donc ça va nous donner l'occasion, ce film de Nightingales, qui est un film est sorti en Blu-ray DVD ce mois-ci, de parler du Rape and Revenge et de faire un blind test.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il, d'une blague?
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
Rape and Revenge comme viol et vengeance, eh bien, le scénario repose sur un ou plusieurs viols suivis de la vengeance de la victime ou de ses proches. Donc, en tout cas, c'est de l'autojustice. Et ce serait le film La Source d'Ingmar Bergman, qui a d'ailleurs remporté l'Oscar du meilleur film étranger en 1961, qui serait considéré comme le premier Rape and Revenge de l'histoire du cinéma, mais c'est sans doute le plus connu. Mais Manu, il y en a eu d'autres avant. Voilà.
Oui, certainement. Je pense que si on va dans l'histoire du cinéma, on peut en trouver dès les années 20-30, à mon avis.
Voilà. Donc, en tout cas, l'objectif de ce blind test, chers auditeurs, c'est toujours la même chose. 5 extraits. Il faut deviner les titres de chacun de ces extraits. Premier extrait.
J'étais dans une unité médicale OC.
Oh, OC, officier commandant.
Non, objecteur de conscience.
Oh, ça alors? Quelle idée de vous inviter au gun club! Ah, vous êtes probablement un libéral attendri, persuadé que si nous aimons jouer du revolver, c'est parce qu'il est le symbole prolongé de notre pénis.
Je n'y ai jamais pensé sous cet angle, mais ça n'est pas exclu.
Non, ça n'est pas exclu. Mais ici, le revolver est roi. À New York, vous ne pouvez même pas avoir un pistolet de salon. Ici, je ne connais pas un homme qui n'a pas le sien. Et je vais vous dire autre chose. Contrairement à ce qui se passe chez vous, on se promène dans nos rues et dans nos parcs la nuit en toute sécurité. Un braqueur qui s'amuserait à sauter sur les passants se ferait drôlement assaisonné.
C'était facile.
C'était Death Wish, un justicier dans la ville.
Oui, film américain réalisé par Michael Winner, sorti en 1974. Premier volet d'une série de films avec Charles Bronson. Et dans ce premier opus, sa femme et sa fille sont sauvagement agressées. Sa femme meurt de ses blessures. Alors, apparemment pacifiste, on l'entend, il a été objecteur de conscience, ce n'est pas rien. Et bien, cet homme qui est architecte va décider de faire la peau à tous les voyous qu'il rencontre. Et il est nommé par la presse le justicier. Il y a eu 4 autres opus du Justicier et puis aussi un remake dans les années 2000, entre 2000 et, oui, voilà, 2015, 2010. 2015. Combien de spectateurs ont vu ce film? 1,5 million en France. Deuxième extrait de ce blind test consacré au Rape and Revenge.
Maître Fraude a eu l'amabilité de me laisser consulter votre rapport. C'est l'enquêtrice. Il s'agit bien de son nom. Vous voyez, je ne trouve pas la moindre information sur elle et je suis plutôt doué pour ça.
Est-ce que c'est vraiment important de connaître son nom?
C'est important si je veux lui parler.
C'est contre notre politique.
Vous êtes sûr?
Comme avec vos sources, vous devez comprendre.
Ok. Tenez, moi je vous donne un nom. Ma sœur, c'est aussi mon avocat. Elle prendra contact avec vous. Il y a des choses là-dedans qui ne peuvent venir que d'un endroit précis.
Vous ne trouvez aucune info sur elle nulle part parce que ces infos ont été mises sous scellé. C'est une pupille de la nation.
Je ne vois pas où est le problème.
Elle a eu une vie compliquée. Est-ce qu'on peut essayer de ne pas la lui compliquer davantage?
Trouvé.
Alors, c'est Millennium.
Oui, alors la version américaine.
De Fincher.
Oui. Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, donc sorti en 2011, effectivement réalisé par David Fincher avec Daniel Craig et René Mara. Remake de Millennium, donc le film suédois sorti en 2009, est tiré du roman éponyme de Stieg Larsson. C'est l'histoire de Mikael Blomqvist, journaliste au mensuel suédois Millennium, qui enquête à la demande de l'ancien industriel Henrik Wenger sur la disparition de sa nièce. nièce, il se fait aider par Lisbeth, une jeune hackeuse prodige et marginale. Eh bien, il découvre des ramifications tentaculaires et inattendues. Seulement, je dirais presque, 1 million de spectateurs en France. Voilà pour ce David Fincher. Troisième extrait de ce blind test, Rape and Revenge.
L'étrangleur de Boston. Ça, c'était du grandeur.
Mina.
Je sais.
Ah oui?
Ouais. Freud.
Freud? Freud?
Sigmund Freud. Tu te rappelles? Dans le temps, un poteau télégraphique, c'était qu'un poteau télégraphique.
Ouais.
Eh ben, plus maintenant. C'est un grand phallus.
Phallus, phallus.
Et grâce à Freud, je peux même plus voir les gorges du Colorado sans serrer les jambes. Bah, si ça, c'est pas un crime.
Ça a été trouvé, Guillaume.
C'est La dernière maison sur la gauche de Wes Craven.
Et oui, c'est son premier film sorti en 72. Et c'est un film inédit hein, dans les salles françaises. Il est en revanche sorti en VOD le 22 avril 2009.
Quand tu parlais de la source tout à l'heure. Il faut savoir que La dernière maison sur la gauche est un remake officieux. Du film de Bergman.
Donc, c'est trois assassins à un drogué qui séquestrent et torturent à mort deux jeunes filles fêtant leur anniversaire. Et le soir, eh bien, ils passent la nuit sans le savoir chez les parents de l'une des deux filles. Cette maison est la dernière maison sur la gauche et la dernière qu'ils verront de toute leur vie. Excusez-moi de spoiler, mais c'est ainsi que ça se termine. Voilà. Donc, on passe au quatrième extrait de ce blind test.
On danse.
Qu'est-ce que vous voulez faire? Grimper aux arbres?
Les premiers mots qu'elle m'a dit, c'était déjà un coup de marteau. Et en plus, je déteste les gens qui ont les mains humides. Je déteste. Mais elle, sa main humide avait quelque chose que j'ai toujours aimé. Je sais pas quoi. Quelque chose qui est dans les bébés, les enfants.
On espère que cette musique va vous rester en tête. Ça a été trouvé.
J'ai donc L'été meurtrier de Jean Becker.
Oui, film de 1983, d'après le roman homonyme de Sébastien Japrisot. En 1976, la jeune Eliane, sensuelle et aguicheuse, emménage dans un petit village de Provence avec Gabriel, son père adoptif paralytique et sa mère surnommée Eva Braun. Merci. Et Pimpon, un garagiste rêveur et pompier volontaire, eh bien, tombe sous son charme et dans son piège, car elle veut se... Venger. Eh oui, 5,1 millions de spectateurs en France, attirés sans doute par Isabelle Adjani et peut-être aussi par Alain Souchon. Et ces 4 Césars, dont ceux du meilleur scénario et de la meilleure actrice. Cinquième et dernier extrait de ce blind test.
J'essaie la porte de service par où on sort les poubelles la nuit. Elle était ouverte. Je prends l'escalier. Une fenêtre mal éclairée. Je regarde à l'intérieur. Éclairage aux chandelles. Et je vois ma femme les bras autour d'une autre femme. Quand je suis rentré chez moi, je suis allé dans la salle de bain, puis je me suis brossé les dents, je me suis lavé le visage. Je suis allé dans ma chambre, j'ai changé de chemise. Ensuite, je suis allé à la cuisine et j'ai étranglé son chat.
Drôle d'ambiance pour ce film, je pense que vous connaissez...
Maniaque ?
Non. Non. Alors c'est un film de 1981, mais ça c'est... Bon, c'est peut-être pas ça qui va vous mettre sur la piste. En revanche, c'est un réalisateur dont tu as parlé tout dernièrement dans l'émission. Je dirais même que c'était la semaine dernière. Ce réalisateur est un réalisateur américain, évidemment. Alors... Je raconte l'histoire. Muette, Tana est une jeune femme.
Ah, c'est Adabel Ferrara, c'est l'ange de la vengeance.
Hein. Voilà. Donc, Tana est une jeune femme violée deux fois le même jour et elle décide, eh bien, la nuit venue, de parcourir les rues sombres de New York en tuant de son calibre 45 tous les hommes qui l'approchent. C'est effectivement l'ange de la vengeance. Court film, on pourrait presque dire...
75 minutes.
Sorti en 1981 et qui a réuni 121 000 spectateurs en France. Ainsi s'achève ce blind test donc spécial Rape and Revenge, puisque nous parlions de Nightingale. Une femme qui embarque dans un avion, un mystérieux sac à la main, au milieu de soldats odieux, c'est Shadow in the Cloud.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va garder ça.
Les Gremlins n'existent pas, c'est dans votre tête. Ce ne sont pas des monstres qui causent les accidents. Ce sont les pilotes négligents.
Un orage, une tempête en approche, une femme isolée et la nuit qui dévore le tout. À première vue, on pourrait se dire que Shadow in the Cloud commence de façon bien classique. Sauf qu'il faut remplacer l'attendue ruelle sombre ou route déserte par un tarmac abandonné et substituer la jupe de la femme par une tenue de pilote. Shadow in the Cloud met en scène non pas une frêle femelle qui va devoir attendre un héros au gros bras en guise de rayon de soleil, mais une combattante qui, dans les pires heures de la Seconde Guerre mondiale, va se révéler aussi déterminée et combative que ses semblables masculins. Son objectif est simple, hein, monter à bord d'un bombardier pour livrer un mystérieux colis en territoire plus sûr. Mais son problème, car il y a toujours un problème, hein, est multiple. Elle doit faire face à l'équipage, exclusivement composé d'hommes qui ne sont pas convaincus du bien fondé de sa mission, et la menace d'un avion japonais à leur trousse plane sur la bonne gérance du vol. À cela va s'ajouter un autre souci autrement plus fantastique. La troupe de pied-niquelés-volants ne serait pas seule et il y aurait une créature à bord qui ne va pas tarder à se manifester. Or, pour le moment, notre héroïne est la seule à la voir et cela va occasionner quelques frictions et une montée en tension de plus en plus violente avec une équipe déjà aux abois à cause de l'ennemi qui pourrait surgir à n'importe quel moment.
Qu'est-ce que vous foutez là ?
Comment vous vous appelez, mon cœur ?
Officier de bord, Garrett. Je suis mécanicienne et pilote.
Il n'y a pas de femme dans l'armée de l'air.
Ma mission est top secrète. C'est tout ce que vous devez savoir.
Qui êtes-vous à la fin, mademoiselle Garrett ? Il y a un truc au-dessus, sur la carlingue !
A priori, Shadow in the Cloud est une histoire de femme forte. Le personnage principal, joué par Chloé Grace Moretz, que l'on a vu plus ou moins dégourdi dans les plus ou moins appréciables Kick-Ass, Dark Shadow ou les pas du tout appréciables remakes de Carrie ou de Suspiria, est au centre d'une lutte des sexes particulièrement violente qui va prendre des proportions délirantes une fois passée la première demi-heure. Enfermée dans un bombardier pris pour cible, c'est face à tout le spectre de la méchanceté masculine qu'elle va devoir rendre des comptes et s'affirmer pour pouvoir survivre. Il faut dire qu'elle est gâtée car absolument tous les personnages hommes sont des salauds. Ils se contentent pas d'être misogynes, en rue tout simplement biberonnés à l'alcool frelaté, ils sont tous absolument affreux, sales, méchants, vulgaires quand ils ne sont pas de potentiels violeurs. D'entrée, cette non-finesse d'écriture handicape lourdement le film car il fait perdre la vraie originalité de son récit, celui de placer une femme dans un bombardier en plein conflit aérien, presque aux commandes, hein, et cette fois pas en pin-up sur la carlingue. C'est d'autant plus rare d'avoir cette figure féminine à ce poste, hein, puisque le film s'inscrit dans une lignée prestigieuse d'histoires ayant exactement le même contenu et ayant marqué les esprits sur plusieurs décennies.
On est en danger !
Les Gremlins n'existent pas, c'est dans votre tête ! Nous devons bien à nos soldats de nous appliquer à notre tâche. Sécuriser notre ciel !
En effet, Shadow in the Cloud met en scène une mise à jour de la légende du Gremlin, mais pas celui des films de Joe Dante et produit par Steven Spielberg en 84 et 90. Non, l'original, celui du livre de Roald Dahl de 1943 et qui était initialement prévu sur grand écran sous l'égide de Walt Disney. Roald Dahl, ancien pilote, y reprenait cette figure mythique inventée par les aviateurs britanniques lors de la Seconde Guerre mondiale sur le compte duquel il mettait tous les problèmes mécaniques et avaries rencontrés. Le Gremlin, ce petit lutin saboteur, synonyme de mauvais sort et de malchance, va devenir une icône de la pop culture, en particulier grâce au célébrissime épisode Cauchemar à 20 000 pieds de la non moins célébrissime série La Quatrième Dimension. Réalisé par Richard Donner et mettant en scène William Shatner pas encore aux commandes de l'Enterprise, on assistait impuissant à la lutte de ce dernier pour faire comprendre à l'équipage d'un avion qu'une créature était en train de détruire les moteurs de l'engin. Créature qu'il est bien sûr le seul à voir. George Miller, le papa de Mad Max, reprendra à son compte cet épisode pour l'un des segments de la quatrième dimension, le film, en 1983, donc un an avant le premier Gremlins de Joe Dante, et aussi produit par Spielberg, j'espère que vous suivez. Donc l'inconnue Rosanne Liang a bien sûr la lourde tâche de passer après tout ce beau monde et elle fait du bon boulot, hein, sans toutefois transcender son matériau, faute d'une direction franche à suivre. Car le scénario de Max Landis, fils du réalisateur John Landis, qui lui aussi avait participé au film La Quatrième Dimension cité plus tôt, hein, se permet en plus d'emprunter à un autre classique de la science-fiction des années 80. Le huis clos mortifère dans une forteresse volante fait bien évidemment clin d'œil à celui du segment du film d'animation Métal Hurlant, à ceci près, hein, que le Gremlin y était remplacé par des membres d'équipage morts qui revenaient zombifiés pour attaquer l'ultime survivant. Alors, au-delà des scènes d'action, à la limite du vraisemblable, on pourrait quand même douter, hein, de la pertinence du discours féministe volontairement hargneux, surtout qu'on rattache encore une fois l'héroïne d'un film à la figure maternelle qu'elle se doit apparemment d'incarner. Donc à vous de voir si c'est une fausse bonne idée, moi ça m'a un petit peu gêné quand même. Hein. Mais bon, il y a quand même des points forts à soutenir, hein, entre autres, donc, évoquer ici une fort belle créature, hein, du bestiaire fantastique, plutôt rare, hein, au cinéma, mine de rien, et sa courte durée qui fait de ce film un film assez efficace.
Content de vous revoir parmi nous, ma belle.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison ?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre,
comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
La semaine prochaine, les salles de cinéma ne seront toujours pas réouvertes, mais on vous parlera eh bien, des films qui sortent en DVD, Blu-ray et en VOD. Et nous aurons aussi un blind test. À la semaine prochaine.